France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
On abolit ce nom tous les jours dans la presse, le prononcer très régulièrement à l'antenne. Avant lecture du livre de notre invité, on ne mesurait pas la puissance de feu d'Amazon. Le groupe américain, avec sa place de marché, est devenu un monstre du commerce qui ringardise un peu plus chaque année les hypermarchés et centres commerciaux. Aux États-Unis, on parle de l'apocalypse du commerce de détail et des dead malls, ces gigantesques espaces commerciaux menacés de mort. Peut-il y avoir un monopole sur nos achats, quasiment notre vie quotidienne? C'est bien de cela qu'il est question. Qui est en mesure de résister? Le chinois Alibaba, évidemment. Google, peut-être. Walmart, le Carrefour américain. À propos de Carrefour, le groupe français lance à peine sa contre-attaque. Peut-elle être couronnée de succès? Y a-t-il également des chemins de traverse? Amazon avant tout, donc. Alibaba aussi, le chinois. Deux emblèmes de la plateformisation de la consommation. C'est le titre du livre qui examine cette révolution. Sous-titre, peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon? Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Professeur d'économie à Paris Diderot, spécialiste de la consommation, auteur de ce livre qui paraît après-demain dans la collection Le Débat chez Gallimard. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une plateforme? C'est un site internet qui met en relation directe une offre et une demande, pour le dire simplement, des acteurs économiques, Doctolib, Mythic, Netflix. Rien qu'en citant ces trois noms, on mesure la place prise par les plateformes. Amazon, c'est une place de marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Il y a deux manières de faire du commerce. La manière traditionnelle, c'est d'acheter des marchandises à des fournisseurs pour les revendre à des consommateurs. Et la manière plus moderne, qui a été non pas inventée par Amazon, mais déployée à grande échelle par Amazon, c'est de se rémunérer en mettant en relation des vendeurs, oui, avec des consommateurs. Donc en fait, Amazon n'achète pas la marchandise. Enfin, Amazon a les deux activités, hein. L'activité initiale d'Amazon, c'était d'être un distributeur en ligne, donc il achetait des marchandises pour les revendre. Et puis il a compris l'intérêt du modèle de la place de marché, donc il a rajouté à son activité de distributeur une activité de place de marché où il se rémunère en fait tout simplement sur les transactions réalisées par son intermédiation.
Ça veut dire pas de stock et donc pas de coût lié à un stock énorme par exemple dans les hypermarchés?
Alors, pas de stock, en fait, pas de propriété de la marchandise. Donc, ouais, pas de capital immobilisé pour acheter la marchandise.
Voilà,
pas de risque commercial. Si jamais la marchandise ne se vend pas, il gagne pas de commission, mais au moins, il a rien perdu. Il a pas besoin de se soucier de découler des stocks de produits qui ne se vendent pas. Ceci dit, il a des stocks parce que comme il était distributeur avant, oui, d'être marketplace, il vend aux marchands une prestation de service logistique. Donc, si vous avez envie demain de vendre des produits sur Amazon et que vous ne pensez pas être à la hauteur pour gérer vos stocks vous-même, vous confier vos stocks à Amazon, qui va se faire un plaisir de les gérer, de procéder aux expéditions, la facturation, les retours. Il va tout gérer pour vous. À la limite, vous avez juste à élaborer un catalogue de produits, de fixer un prix. Évidemment, tout ça est facturé, très cher.
Tout ça est payant. Et les services, on en parle dans un instant. Encore un mot sur le constat. Vous donnez beaucoup de chiffres. Il y a deux géants, il y a Amazon, il y a Alibaba. 2019, Amazon, c'est près de la moitié du e-commerce américain. Tout canaux confondus, c'est le premier vendeur de chaussures et de vêtements aux États-Unis. En France, presque un adulte sur deux, chez les 18-75 ans, achète sur Amazon. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'on est vraiment dans une logique où celui qui est en tête arrive au monopole assez facilement, ou s'approche du monopole assez facilement.
Oui, monopole est
la position dominante.
Position, voilà, dominante, une position de force. Effectivement, ça c'est c'est la subtilité et l'originalité du modèle économique de plateforme. Ça, ouais, se retrouve dans les places de marché, mais ça se retrouve sur toutes les plateformes numériques. C'est ce que les économistes appellent des effets réseau ou des externalités de réseau. C'est des gros mots, ouais, mais qui expliquent en gros que le succès appelle le succès. Pour le dire très très vite, pour mettre le doigt sur l'un des mécanismes de ce, ouais, type, vous voyez bien que l'attractivité d'un site internet de vente en ligne dépend notamment de l'abondance du choix qu'on y trouve, ouais, et donc du nombre de marchands qui proposent leurs produits. Donc plus il y a de marchands, plus il y a de clients. Et plus il y a de clients, plus il y a des incitations pour les marchands à, bien venir sûr, sur la place de marché. Et donc, plus de clients amènent plus de vendeurs, et plus de vendeurs, plus de clients. Vous avez ici une dynamique cumulative. J'en prends une autre comme exemple. Pour un client, un consommateur, l'attractivité d'un site internet dépend notamment de la richesse des commentaires des clients qui ont acheté les produits avant vous. Et donc, plus il y a de clients, plus il y a d'avis, et plus il y a d'avis, plus il y a de clients. Et vous voyez que là aussi, on a une dynamique cumulative. Ce qui fait que celui qui prend de l'avance par rapport à ses concurrents dans la montée en puissance, ben, a tendance à conforter ensuite cette avance et à dominer son marché. Ça devient de plus en plus dur pour les suiveurs d'arriver à maintenir leur position.
Encore quelques chiffres. Le catalogue d'Amazon, c'est 250 à 300 millions de références. Alibaba, 1,5 milliard de produits. Sachant qu'un très grand hypermarché, c'est 100 000 références maximum. Vous avez tapé robinet de cuisine et vous avez trouvé
60 000 références.
Voilà, 60 000 références. Et c'est un autre des avantages et des atouts de ces sites, c'est que dans un magasin physique, les 60 000 robinets, on serait complètement perdu.
Exactement.
Sur Amazon, c'est plus facile.
D'autant que les algorithmes sont là pour nous guider. Les préconisations des consommateurs qui sont passés avant vous, de même. Donc on s'y retrouve. Et donc l'une des forces de la place de marché, parce que elle seule peut offrir 250 millions
bien
de références.
Sûr,
aucun site de vente en ligne traditionnel peut offrir un tel choix. Donc l'intérêt de cette formule, c'est que dans un moment où la consommation des ménages se fragmente, parce que nous sommes très différents les uns des autres, chacun a des goûts et des besoins qui sont spécifiques, eh ben, on peut trouver sur un site pareil exactement la référence qui correspond à notre besoin, ce qu'un magasin n'est pas capable de faire. Il est concentré sur les fameux 20-80, les références qui se vendent le mieux.
Alors Amazon se développe, les magasins physiques, il n'y en a pas encore en France ?
Pas encore en France, mais aux États-Unis, il commençait à y avoir beaucoup dans l'alimentaire et dans le non-alimentaire.
Oui.
Amazon est en train de faire ses premières armes dans le commerce physique en Angleterre, avec un magasin alimentaire, un autre magasin non-alimentaire. Donc c'est une question de temps. Mais très clairement, Amazon, après avoir dévoré le e-commerce, a des ambitions dans le commerce physique, de même qu'Alibaba en Chine, qui est très présent dans le commerce physique.
Le cloud, le stockage informatique et le calcul, j'ai appris dans votre livre, le tiers de la capacité mondiale de cloud, c'est Amazon,
oui.
C'est plus que Microsoft, IBM et Google réunis.
Oui, c'est très étonnant, on s'attend pas à ça, si vous voulez. Mais c'est encore un autre coup de génie de cette entreprise, c'est de se dire, pour être le cœur du métier d'une plateforme numérique, c'est la gestion de la donnée, en réalité. C'est vraiment ça qui est la compétence fondamentale. Et cette compétence, elle repose sur des moyens humains et des moyens techniques, qui sont sensibles aux économies d'échelle. C'est-à-dire que quand c'est plus gros, c'est plus efficace. Donc le coup de génie, c'est de se dire, pour renforcer cette force dans l'informatique, pour aller vite, qui est au cœur du modèle de place de marché, je vais vendre ces prestations à des clients extérieurs. Ce qui va me permettre de monter en puissance et de pouvoir investir des sommes croissantes dans cette compétence. Et aujourd'hui, de fait, ce qui était une activité de support de l'activité de commerce est devenu une activité autonome, vendue à très grande échelle à des clients prestigieux, dont la CIA, par exemple, hein, et qui permet de financer l'activité commerce, parce que c'est très rentable, et ça conduit à une sorte de péréquation des profits qui est contestable sur le plan de la concurrence, c'est que l'argent qui est gagné sur cette activité informatique permet de faire souvent du dumping sur l'activité de commerce, qui est une concurrence déloyale pour les autres sites de vente en ligne et les commerces en magasin.
Alors, nous avons au standard une flopée d'appels plus anti-Amazon les uns que les autres. Je voudrais, avant d'entendre nos auditeurs, vous soumettre le message de Benjamin. Je peux comprendre les clients en zone rurale, loin de tout, qui commandent sur le site tout ce qu'ils ne trouvent pas à moins de 30 minutes, voire une heure de voiture. Bon sang, Philippe Moati, le succès d'Amazon, c'est les consommateurs qui le font.
Ben oui. Eh oui, c'est ça. On peut dire que c'est un grand méchant loup,
ouais.
Qu'il
ne
respecte pas les lois
parler.
Sociales,
ouais.
les lois fiscales, etc. Mais en même temps, il est plébiscité par les consommateurs. C'est un impressionnant.
Ouais.
Le logo d'Amazon, hein, c'est un sourire. Hein. Et donc, dès l'origine de l'entreprise, Jeff Bezos a fait de la satisfaction du client sa priorité absolue.
Ouais.
Absolue. Et il faut reconnaître que ça paye et que nous sommes des victimes consentantes.
Grégory au standard, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, moi je voulais apporter mon témoignage, donc merci de prendre mon appel. Je combats effectivement fermement l'utilisation d'Amazon et j'essaye de sensibiliser mon entourage par rapport à ça, principalement pour des raisons d'éthique. Je sais qu'effectivement on peut tout y trouver, on est livré très rapidement et souvent les prix sont très attractifs, mais à côté de ça... les conditions de travail qui sont pratiquées dans les entrepôts Amazon sont totalement inacceptables. Les cadences sont très élevées. On sait qu'ils ont un taux d'accident du travail et de maladie qui est supérieur à la moyenne. Les cadences impliquent que quelquefois les salariés sont obligés de prendre sur leur temps de pause ou leur temps pour aller aux toilettes pour répondre à des objectifs parfois très élevés. Donc ça, c'est la première chose qui me gêne chez Amazon. La deuxième chose, ce sont les problèmes de gaspillage et de pollution. Comme votre intervenant l'a dit, comme c'est une place de marché, il y a des vendeurs qui mettent du stock chez Amazon et on sait que quand il y a qui a besoin de place et que ce stock n'a pas été vendu, il termine bien souvent à la poubelle. Et donc, on a des produits tout neufs qui sont gaspillés et jetés.
Merci Grégory pour ce témoignage. Philippe Moati, vous l'écrivez, Amazon incarne au fond les excès de la mondialisation, écologie, surconsommation, gros qui écrase les petits, les conditions de travail, l'optimisation fiscale. Est-ce que, et je pourrais vous lire plein de messages, Bernard, je n'ai encore jamais utilisé Amazon, bien que faisant régulièrement des achats par Internet, donc c'est possible. Thérèse, j'ai beaucoup acheté sur Amazon depuis un an, je le boycotte totalement et définitivement. Est-ce que, guillemets, ce front anti-Amazon peut entraver l'ascension du groupe?
C'est une menace qu'ils prennent au sérieux, je pense. Alors, c'est intéressant d'ailleurs que la tonalité de vos éditeurs bascule franchement du côté négatif. On a essayé à l'Obsoco de mesurer la fronde anti-Amazon. Oui. Et en gros, nous estimons à 10% des Français cette fraction qui est en opposition, en position de boycott, pour le dire vite. Les autres, ils trouvent plutôt leur compte et ont même plutôt tendance à consommer de plus en plus chez Amazon, mais souvent avec un sentiment de culpabilité. Donc c'est quand même quelque chose à prendre très au sérieux. D'ailleurs, si vous avez remarqué, Amazon fait actuellement de la publicité à la télévision pour désamorcer ça, pour montrer que finalement on a des salariés qui sont heureux de travailler chez Amazon, etc. Donc c'est dire que il y a ici un facteur de fragilisation que l'entreprise a bien saisi.
L'optimisation fiscale, c'est un des ingrédients du succès économique d'Amazon, ou même si Amazon payait ses impôts comme une entreprise classique, ce serait un géant du e-commerce.
Je pense que oui, c'est un facteur supplémentaire, si vous voulez, mais on a trop tendance à mettre la réussite d'Amazon sur le compte de ce comportement inacceptable, par ailleurs. Mais et quand on dit ça, on se dédouane un peu, je pense surtout à ses concurrents, d'une réflexion sur le fond. C'est que Amazon en est arrivé là par une succession d'innovations qui ont rencontré une vraie demande en face. On pourrait les lister. La place de marché, c'est lui qui l'a déployé à grande échelle. C'est un modèle assez génial. L'abonnement, le fameux Prime, qui vous donne un tas d'avantages, mais qui verrouille en quelque sorte le client volontairement.
Une fois que vous êtes abonné, vous n'allez pas voir ailleurs, en
Absolument.
Résumé.
Absolument. Ouais. Cette capacité de capter de la donnée à tous azimuts, y compris sur le plan de vos lectures et de ce que vous regardez à la télévision. Ouais. Tout ça fait une entreprise extrêmement compétitive, un service client reconnu même par ses détracteurs. Donc je pense que évidemment il faut remettre Amazon sur les rails concernant la fiscalité, c'est inacceptable.
Et de ce point de vue, la taxe de 15% de ce point de vue,
ça va effectivement porter ses fruits, absolument. Déjà le gouvernement français a mis en place une taxe de 3% sur les revenus des GAFA. L'impôt minimum de 15% à l'échelle mondiale va en rajouter une couche. Ça n'affaiblira pas plus que ça Amazon. Il faut l'attaquer sur ce qui fait le fond de sa force, c'est-à-dire sa compétitivité.
Pierre-Marie au standard, dernier appel. Bonjour Pierre-Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
J'ai une question très simple. J'aimerais juste comprendre pourquoi autant de gens critiquent Amazon mais continuent à faire leurs achats sur la plateforme.
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe. Merci pour cette question. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe Moati. Et ça amène une question aussi de ma part. Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs qui se développent? Vous citez Leroy Merlin, vous citez Decathlon pour prendre de grandes marques.
Oui, c'est aujourd'hui très difficile d'affronter Amazon frontalement, c'est-à-dire de faire une marketplace généraliste. C'est trop tard. Ces phénomènes cumulatifs dont j'ai parlé font qu'il a pris tant d'avance qu'aujourd'hui, ça serait très difficile d'arriver à le contrer. Par contre, il y a encore des opportunités pour l'aborder par des verticales, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire sectoriellement. Donc, Leroy Merlin dans le bricolage, ou Mano, plus sûrement, qui a déjà pris des positions très solides. Dans la mode, on a des entreprises qui se portent très bien, dans l'occasion, etc. Donc, Amazon, on peut l'ébranler en quelque sorte en l'attaquant sur le flanc par des approches sectorielles. On peut aussi l'attaquer, mais là, le combat ne fait que commencer et il n'est pas gagné d'avance, par des plateformes locales. C'est une entreprise globale. Aujourd'hui, on sent que beaucoup de consommateurs ont envie de consommer localement. Eh bien, organiser l'offre locale à travers le modèle de plateforme avec un bon niveau de professionnalisation, ça peut être une alternative et on sent déjà venir des initiatives qui semblent rencontrer l'adhésion des consommateurs.
Et puis, pour répondre quand même plus directement à la question de Pierre-Marie, pourquoi ces consommateurs restent-ils sur Amazon? Parce qu'ils trouvent plus de choix à moins cher et vite livré. En résumé, c'est ça les trois atouts.
Et il peut y avoir un conflit, comme souvent, entre le consommateur et le citoyen. Voilà. Et généralement, le consommateur parle plus fort que le citoyen.
Un autre secteur où le fait de contrer l'ascension est possible, c'est l'alimentaire, Philippe Moati.
Oui,
là, de ce point de vue-là, les lourds investissements de Carrefour, est-ce qu'il y a une réponse pertinente?
Oui, la messe n'est pas dite dans l'alimentaire. C'est pas trop tard. Il faut se dépêcher. Et nos distributeurs ont un atout dans leur jeu, qui est d'avoir des magasins qui assurent un maillage du territoire. Donc je pense qu'ils ont compris la leçon. Oui. Ils ont raté raté le coche sur le non alimentaire et je crois qu'ils ne rattraperont pas le retard. Sur l'alimentaire, ils sont en train de mettre le paquet et j'espère que ça sera suffisant parce que pour l'instant, Amazon n'a pas montré toute l'énergie dont il est capable lorsqu'il veut attaquer un marché, en tout cas pour la France.
Il nous reste une poignée de secondes juste pour dire un mot d'Alibaba, l'autre géant. Ça n'est pas que la Chine, Alibaba.
Non. Alibaba vient d'ouvrir un entrepôt géant à Liège et l'ambition, c'est d'attaquer l'Europe. Alors, pour l'instant, très présent en Europe de l'Est, mieux qu'Amazon d'ailleurs. Ouais. Et on voit monter AliExpress, qui est sa filiale qui traite du marché européen, des marchés internationaux. Ouais. On le voit monter progressivement dans le palmarès des sites de e-commerce français. Donc attention, on risque d'assister à un choc des titans dans les prochaines années.
Merci Philippe Moati d'être venu dans les studios de France Inter. La plateformisation de la consommation, peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon ? C'est aux éditions Gallimard et ça sort après-demain, hein, c'est bien ça.